Boise. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
L'émission en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV pour réagir. Et vous êtes nombreux à le faire, 418-971-1021. Vous pouvez venir nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM. On est disponible également sur l'application BLVD 102.1 et via la web radio sur le BLVD.FM. Pascal, quand on dit que la meilleure place pour être aux nouvelles, c'est à l'émission On en jase, je te nomme quelques preuves présentement.
Vas-y.
T'es prête? On a parlé avec Maïté Blanchette-Vézina à midi, l'ex-ministre de la CAQ au niveau des forêts et des ressources naturelles. Ben regarde donc ça. Je lève la tête à LCN. C'est Maïté Blanchette-Vézina. Elle nous a parlé avant à LCN. On est-tu rendu sa coche à Boulevard?
Ça, c'est ta fierté.
Et allez. Voilà. Après ça, on vient de parler avec Anthony Niacarini de la réforme de Postes Canada. Je lève la tête. Joël Lightbound est en train de faire l'annonce de la réforme de Postes Canada.
Oui, en plein point de presse pas pour fait, le fédéral. Hein? Oui, exact.
Yes, exactement. Il va y avoir de quoi être vraiment gros aussi à Boulevard, là. C'est le 2 octobre prochain, je pense. Un face-à-face entre deux personnes, c'est-tu bien
ça? Deux personnalités politiques. Je pense que vous l'attendez, puis ils travaillent fort. T'sais, Audrey Pinchot est là-dessus depuis le tout début de l'automne. Même pas de l'automne, elle était là-dedans cet été.
Cet été.
T'sais, convaincre des politiciens de venir s'affronter en ondes, en direct, c'est pas facile. Habituellement, on a ça à la télévision, puis encore là, ça a été préparé. Puis je pense que pour certains politiciens, honnêtement, Jeff, c'est j'ai pas le choix d'y aller parce que les autres y vont, mais c'est toujours extrêmement stressant.
Oui.
Ils se préparent, OK? Ils ont les questions d'avance. On veut la meilleure réponse possible pour les citoyens. Mais chose certaine, dans l'équipe du retour, il y aura un face-à-face. Un face-à-face entre les deux personnes qu'on projette comme étant la possibilité d'être la tête au municipal, à la mairie, à Québec. Donc, bien sûr, M. Marchand et M. Hamad. Donc, on est avec Bruno Marchand et Sam Hamad en face-à-face le 2 octobre prochain à 16h dans Gravel dans le retour, ici, à Boulevard 102.1. Bien sûr, Denis va animer ça. On a 5 grands thèmes, OK? Ce sont les suivants. Le premier, qui serions-nous pour ne pas le prendre, ce thème-là? Ouais. Même si vous êtes dosé, c'est un enjeu, c'est l'enjeu principal de l'élection, selon nous, le transport, la mobilité.
Ben oui.
Donc, les banlieues versus le centre-ville. L'économie est un des points cruciaux aussi. La relation avec les gouvernements, sinon on n'avance en rien, dans rien. L'itinérance et la sécurité. Mm-hmm. Et bien sûr, Québec dans 15 ans. On veut quoi pour Québec dans 15 ans?
Je l'aime, ce thème-là, Québec dans 15 ans.
C'est souvent pas très sexy. C'est souvent une des thématiques où le bas résil n'est pas mis par les politiciens, mais c'est ce qui amène, en fait, pour toute la génération qui suit et la structure politique, beaucoup de débouchés, puis clairement une belle vision. Donc, soyez à l'écoute le 2 octobre prochain, 16h sur les ondes de Boulevard pour le face-à-face.
C'est clair qu'on va être à l'écoute. On va rejoindre de ce point notre chroniqueur Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal. Rémi, comment vas-tu?
Ça va bien, vous deux.
Ça va super bien. Rémi, un des thèmes, justement, du face-à-face va être le transport et la mobilité. À Québec, on est en train de concevoir un tramway. Bon, il y a encore plusieurs gens qui ne le veulent pas, mais il se construit quand même. Et le contrat a été donné à la CDPQ Infra. Et là, je regarde la une de la presse. La direction du REM s'excuse, mais assure être prête à affronter l'hiver. Rémi, c'est la CDPQ Infra, la direction du REM?
Oui, puis l'hiver dernier, il y avait eu des ratés, puis les explications qu'on donnait étaient très décevantes, voire presque humiliantes pour une organisation comme la CDPQ Infra. On disait « Ah, on n'avait pas anticipé telle affaire, telle affaire, telle affaire ». Tu sais, c'est pas une excuse que tu peux donner en matière quand il est question de l'hiver québécois. S'il y a bien une affaire qui est prévisible, c'est bien l'hiver québécois. On sait qu'il va tomber de la neige, on sait qu'il va faire froid, on sait qu'il va y avoir du gel. Donc, on n'avait pas, et c'est normal, personne acheté cette explication-là. Là, on nous dit qu'on a fait certains apprentissages, mais on est en retard dans la livraison de certaines lignes. Ça nous rappelle quand même une seule chose, je pense, plusieurs, mais une seule qui est essentielle, c'est que quand vous vous lancez dans un grand projet, puis là, je m'adresse à n'importe qui à la maison, il faut réussir son coup.
Ouais.
Parce que si vous lancez dans l'air une promesse, si vous dites « je vais le faire », il faut le faire. Ouais. Vous êtes mieux alors, si vous n'êtes pas sûr, de ne pas vous lancer là-dedans. Parce que les gens sont exigeants. Eh bien oui, les gens, quand ils voient des millions de dollars être investis, quand ils voient des organisations qui décident de se lancer là-dedans alors qu'il est possible de faire affaire avec le secteur privé, bien on s'attend au même résultat promis par le secteur privé qui, lui, est imputable, qui, lui, doit remplir des demandes, sinon ben, la logique du marché fait en sorte qu'il n'est plus appelé.
Parce que là, il y a la branche des deux montagnes qui va être inaugurée, là, je pense, quelque part en novembre, avec un petit peu de retard, mais c'est surtout une autre branche qui va être inaugurée seulement au printemps. Et ça m'amène à te poser la question suivante, Rémi. La Caisse de dépôt et de placement, c'est un organisme qui gère l'argent, le bas de laine des citoyens. Est-ce qu'elle a vraiment des compétences en infrastructure?
Ben, elle n'en a pas à la base. Elle peut en développer et je vais peut-être vous surprendre. Moi qui suis plus à droite sur le plan économique, je n'ai pas de problème en soi avec le fait que la CDPQ existe et qu'elle se lance dans des projets comme ça. Je trouve que c'est très québécois que de se lancer dans les grands chantiers. Faut les réussir. Je lisais ce matin Jean-Marc Arbault, qui est le président de la CDPQ Infra, il dit c'est vraiment dommage qu'on ne parle de ce projet-là que lorsque ça va mal. Si on se compare aux autres provinces du Canada, c'est un projet ambitieux. On est les meilleurs là-dedans. On a développé l'une des plus longues lignes, hein, l'un des plus longs tracés au monde. Il a peut-être raison, mais on va pas réinventer la roue. Lorsque vous ratez votre coup, lorsque le REM reste fermé, lorsque le service est interrompu le matin, lorsque des gens vendent leur voiture en région pour faire confiance à ce réseau-là et que le réseau n'est pas au rendez-vous, c'est un peu normal que les médias, puis là je parle de nous trois, on rapporte ces nouvelles-là, on fait
Oui.
notre travail, puis on n'a pas effectivement le mandat de la CDPQ Infra que de se concentrer sur les bonnes nouvelles. Quelles bonnes nouvelles, soit dit en passant? Je veux dire, la ligne de tra la, le tracé marche une fois de temps en temps. On a lancé. Oui, de grands projets, mais on va pouvoir saluer CDPQ Infra lorsque les tracés vont avoir été exécutés. Moi, une feuille, un plan, hein, un brouillon ou un plan d'architecte, ça ne m'impressionne pas, là. Moi, je veux regarder le truc, l'entendre le moins possible parce que ça fait bien du bruit. Puis là, après, être impressionné. On va faire les choses dans l'ordre, là, si on veut bien, là.
Comment est-ce que ça se peut de t'entendre dire faut les réussir, mais de ne pas y croire maintenant? De ne pas croire que ça peut réussir finalement un projet comme ça?
Ben, en fait, c'est tellement normal comme posture, Pascal. Je veux dire, si on lance mille et un projets dans les airs et qu'on en réalise 55, ben, c'est un peu normal que de se rappeler des. Là, je suis plus bien bon en mathématiques, là. Sauf que la soustraction, disons, tout ce qui reste n'a pas fonctionné. J'exagère, évidemment, on en réussit beaucoup
Oui.
plus que je viens de mettre sur la table, mais il faut réussir ces grandes affaires-là parce qu'on le sait, de toute façon, il y a des entreprises asiatiques. Européennes qu'on aurait pu appeler, ils seraient venus ici, ils auraient fait le travail et ils auraient été redevables imputables. Ces entreprises-là auraient vu leur performance en bourse baisser si elles avaient été derrière un échec. Donc là, on fait confiance à des fonctionnaires, on engage du monde du secteur privé, on les paye très cher, on dit c'est normal, s'ils allaient dans le secteur privé, ils seraient payés aussi cher. Il faut que ces gens-là puissent nous offrir les résultats escomptés. Puis, ce projet-là, depuis le début, moi, il me rend un peu mal à l'aise parce que si on fait de grands projets d'envergure, on peut-tu les faire aussi, hein, puis qu'ils soient beaux? Et je ne sais pas si vous avez vu des images de des wagons du REM, là, on se croirait
Une
en.
méchante structure, hein?
Alors, qui grince avec des espèces de grands barbes. On se croirait en Slovénie, là, en ex-URSS, avec des espèces de wagons,
On
là.
est-tu dans le film de Rocky, là, quand le tramway passe, puis Rocky est en
À
dessous en train de
Philadelphie.
courir, là, à Philadelphie?
Ben oui. Je ne peux pas croire qu'on n'aurait pas pu, je ne sais pas, juste ne serait-ce que sur le plan esthétique, se choisir quelque chose qui aurait été beau à regarder. On savait que ça faisait du bruit. Fait que là, on se dirait, ouais, mais tu sais, du bruit fait par quelque chose de beau, ça passe mieux que du bruit fait par quelque chose de laid. Hein? Tu sais, si au moins ça avait été beau, on aurait été plus patient. Là, ce n'est pas super beau, c'est mal livré, puis on nous dit on est meilleur qu'ailleurs. Ouais, mais regardez, je sais pas, là, dans d'autres villes canadiennes, ils n'ont pas eu cette idée-là. C'est peut-être sûr que notre tracé est plus long que. À des places où ils n'ont même pas de tracé, là, franchement.
Rémi, on change de sujet et tu m'as surpris, puis tu me surprends tout le temps dans tes chroniques, anyway, qui sont les mardis et jeudis aux alentours de 13h dans l'émission On en jase. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es un gars de droite économique, mais là, tu m'écris et tu me dis, ouais, là, Jeff, là, je commence à trouver ça bizarre. Tout le monde est à droite dans le gouvernement du Québec. La CAQ veut couper dans la bureaucratie. Éric Duhaime et Yuri Chassin sortent hier pour la même chose. Là, il y a même le PQ de Paul Saint-Pierre, pour mon nom, qui dit, c'est une bonne affaire. Coudonc, on est-tu en train de vivre un virage idéologique au Québec?
Ben, en fait, c'est ça que je me demande. Y a-t-il une surenchère à droite? La CAQ, un cabinet ministériel, moi, je vous l'avais dit, là, le jour où on avait commencé à entendre des noms, ça se dessinait, là, pour être plus à droite. Drainville qui avait parlé de lâchez-moi les GES en vendant l'environnement, Duranceau avec sa main de fer dans un gant de velours, parce qu'on le sait qu'elle s'habille super bien, c'est chic, elle a le droit, on s'en fiche. Elle est au Conseil du Trésor. Elle a annoncé ses couleurs. Sonia Lebel, qui était au Conseil du Trésor, qui s'en va à l'éducation, là où on ne cesse de dire qu'il y a du gaspillage. Donc ça, c'est pour la CAQ. Au Parti québécois, qui a la réputation d'être un parti très social-démocrate, PSPP avait annoncé ses couleurs il y a un an en disant « Dans un Québec souverain, c'est pas vrai qu'on réengage tous les fonctionnaires du gouvernement fédéral. » Là, hier, il fait une conférence de presse en disant quoi? Là, l'État doit voir ses missions se recentrer autour du service. On s'en fiche d'avoir des hauts fonctionnaires, des cols blancs qui remplissent la paperasse. On veut du monde qui soigne du monde qui enseigne à du monde. C'est ça le deal.
Mais là, c'est
Et
à la
parallèlement
mode.
à ça,
Mais là, c'est
ouais,
à la
vas-y.
mode. C'est à mode, Rémi. Tu sais, c'est un
Eh
peu
oui.
électoraliste parce que, autant que sous l'ère Couillard, l'austérité a fait peur puis a fait en sorte qu'il n'a probablement pas gagné son élection qui a suivi, il y a quelque chose à la mode qui permet de revoir la façon dont on parlait aussi de l'environnement parce que les gens en arrachent foncièrement.
Oui, tout à fait. C'est à la mode et après, tu sais, je pense qu'un parti politique est par définition électoraliste. Donc, tu sais, je veux
Oui.
dire, si tu décides d'être à droite, c'est parce que le monde est rendu à
Ben,
droite.
c'est ça.
Regardez, une autre façon de peser ce qui se passe en ce moment, regardez ce qui se passe. Il y a un conflit avec les médecins spécialistes. Il y a la STM qui est en grève. Inquiétez-vous pas, ça va être la même affaire avec la RTC à l'été prochain, aux alentours du festival d'été, d'après moi.
Ouais, il
C'est ça
va y
la...
avoir quelqu'un d'autre qui va se trouver une excuse, en effet.
Ça pète de partout. Et je n'entends pas de soutien populaire. Je ne lis pas de lettres ouvertes de gens qui disent « Mon père est un chauffeur d'autobus, puis il mérite son 120 000 piastres avec ses heures supplémentaires. » Je n'entends pas de gens qui défendent les syndiqués, puis les gens qui sont en train de mettre sur la table leur stratégie de négociation parce que les gens sont tannés, sont épuisés. Ils entendent tout le temps parler d'argent qui est flobé à gauche comme à droite. Les gens, ils mélangent des affaires et je les comprends. Nordvolt, ça clique. Donc là, c'est pas juste de l'électoralisme, c'est de se dire, on est rendu là au Québec. Et là, j'aurais pu même vous parler de Yuri Chassaing, qui est devenu l'ami avec intérêt, l'ami avec bénéfice, je sais pas,
D'Éric
de
Duhaime.
Éric Duhaime. Donc là, il nous reste Québec solidaire. On devine qu'ils ne vont pas se transformer en un parti de droite,
Penserais
mais on
pas.
aura quand même remarqué que QS n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Et on a un Pablo Rodriguez qui est très, très, très discret sur ces questions-là. Il a préféré prendre la parole sur la clause dérogatoire à Québec, la loi 21, les grandes lignes sur le plan identitaire. Il se cherche, à mon avis, un positionnement parce qu'il se dit, je ne peux quand même pas faire exactement ce que le Parti conservateur, le Parti québécois et la CAQ fait si je veux me démarquer. Et c'est quand même le rôle du Parti libéral de se démarquer à cette étape-ci.
Rémi, j'ai assisté au débat justement des aspirants-chefs du Parti libéral du Québec lorsque ça s'est passé à Québec. Et il y a un Marc Bélanger qui disait le Parti libéral doit s'associer aux syndicats pour faire des réformes dans la société, dans la gouvernance, ne doit pas combattre les syndicats. Penses-tu que ça va être la ligne de parti de Pablo Rodriguez pour essayer de faire différent?
Non, je ne pense pas. D'ailleurs, Marc Bélanger, il faut juste quand même le noter, là, c'est un homme extrêmement sympathique. Moi, je l'ai rencontré deux fois, venu faire des entrevues, aimable comme au bout, mais sa vision du Parti libéral du Québec, elle a été complètement rejetée là, lors de la course à la
Oui,
chefferie.
3,5 % là, de vote, là.
Oui. Non, mais ça, c'est quand même intéressant de le noter parce que les gens ont voté pour quelqu'un d'autre, pour une autre vision du monde. Et moi, je ne vois pas Pablo Rodriguez aller là. C'est un opportuniste. Ça aussi, d'ailleurs, en passant, c'est comme l'électoralisme. Tous les politiciens sont opportunistes, là. C'est pas un reproche que je lui envoie. Là, je dirais que Pablo Rodriguez est un cas particulier quand on sait la façon qu'il a eu de se retourner comme ça en Parti libéral du Canada et « Ah, je suis Québécois et j'aime le Québec ». Je pense qu'il va aller là où le vent mène tout le monde en ce moment. Mais c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir une surenchère. Parce que là, vous avez Éric Duhaime qui dit hier, je vous donne des idées, il y avait un programme en 5 points, volez-moi mes idées. C'est ce qu'il a dit, volez-moi les idées. Je le sais que je ne serai pas au pouvoir comme gouvernement en 2026, donc j'aime mieux vous donner des idées, vous piger dedans. L'heure est vraiment à la crise, donc l'important, c'est de régler des problèmes.
Mais là, Rémi, qui croit? On croit Éric Duhaime qui dit volez-moi mes idées, puis la CAQ va faire les idées d'Éric Duhaime. On croit Paul Saint-Pierre Plamondon qui est rendu plus à droite. On croit François Legault qui, après 7 ans de gouvernance plus à gauche, redevient la CAQ de droite économique. Moi, je ne sais plus qui croit.
Bien, tu n'as pas besoin de croire personne. Tu as besoin de regarder ce qui se fait, tout simplement. Tu sais, si la CAQ dit on est à droite, puis ils font rien à droite, Ben, on ne les croira pas. Même chose pour Paul-Saint-Pierre-Plamondon, qui dans 1 an et quelques jours, normalement, devrait prendre le pouvoir. On verra bien si les babines suivent les bottines ou les bottines suivent les babines. Je pense que c'est ça l'ordre approprié. On a juste, tu sais, la foi en politique, c'est un divertissement, mais la chose qui est intéressante, c'est que les gens n'ont qu'à passer à l'action. Là, la CAQ, je serais, si on reste dans le registre de la foi, un petit peu obligé de les croire. Je les crois sur parole, puisque là, on met dehors du monde ou on gèle des postes, 137 postes à l'environnement. Pour Québec solidaire, c'est la fin du monde. 137 postes! Hey, la fin du monde pour Québec solidaire. Eux, ils cherchent un agenda politique. Au mouvement des transports, même affaire, on gèle, on réengagera pas, on va bloquer des postes. Donc, moi, je crois la CAQ là, ça arrive malheureusement beaucoup trop tard, parce que il faut quand même se rappeler que c'est sous la CAQ que la fonction publique a pris le volume qu'elle a pris en ce moment. On parle d'une augmentation de 15 % en moins de 10 ans.
Rémi Villemur, c'est toujours un énorme plaisir de te parler à chaque mardi et jeudi dans l'émission On en jase. Je te souhaite une excellente émission 99.5 ce soir, une bonne émission samedi matin avec la collègue Jacinthe Varel et on se reparle mardi prochain.
Bye bye tout le monde, bon voyage!
Hey, merci Rémi!
Bon voyage à Pascal CV. Oui, d'ailleurs, Pascal, on va parler de ton voyage au Kilimanjaro au retour de la pause. Et on va également avoir une jeune dame très intéressante, Laurence Béliveau. Elle, là, avec son conjoint, ils recherchent une maison depuis des années, je pense. Ils sont professionnels ici dans la région de Québec.
Bien installés.
Bien installés. Et là, ils sont sur tous les sites de maisons. Ouais. Dès qu'il y en a une qui sort, ils disent « Ah ouais, on bête sur celle-là », mais ils sont jamais capables d'en avoir une. Fait qu'ils ont décidé d'écrire des lettres à des gens que la maison n'est pas encore à vendre.
Puis ça, là... Ça arrive énormément.
Ah oh, oui!
Hey, bonjour! Ou une belle petite famille. Ou...
Oui.
C'est le dernier espoir de bien des gens qui veulent devenir propriétaires. Cette histoire-là va faire vraiment penser à d'autres et ça va faire réagir, c'est sûr. Si c'est votre cas, 88-971-1021, oui. Envoyez-nous plein de commentaires par rapport à votre recherche de maison d'ici là.
Clairement. Confidence, quand j'ai vendu mon jumelé.
Ça, c'est dans la dernière année?
Dernière année et demie. J'ai eu 5 offres. Et... Ça m'a fendu le cœur de ne pas choisir l'offre de la belle petite famille.
Oui, parce que là, il y a le côté financier aussi.
Oui, avec, tu sais, ils ont déjà un enfant de 2 ans, puis là, la maman est enceinte. Puis là, ils veulent chercher de quoi
ils
de plus grand.
Ils cherchent un petit quelque chose.
Mais ils donnaient 15 000 piastres.
Ah, c'est déchirant.
Je peux pas dire oui.
Je comprends.
Mais Pascal, j'en ai pleuré le soir.
Pour vrai?
Ah oui, tu peux pas croire. Parce que je me remettais dans ce moment-là, moi, au moment où j'ai acheté ma première maison avec la mère de mes enfants, est enceinte d'Edouard. Puis on avait Elia.
Oui.
Fait que je m'en mettais dans ce moment-là, la fierté de rentrer chez nous, de dire « Hey, on a 3 chambres. »
C'est à nous.
Nos gars vont avoir chacun leur chambre, de décorer les chambres.
Ouais, notre cocon.
Oui,
là, tu voyais cette famille-là à la recherche d'un cocon, puis malheureusement, avec tout le contexte de surenchère, ça vient avec le cœur brisé.
Oh, ça a fait mal, ça a fait mal. Donc, on parle avec Laurence Béliveau après la courte pause. Vous êtes sur Boulevard 102, l'émission d'Angeaz.